Cette invitation, merci de m'avoir obligé de réfléchir à l'EBM+, dont j'avais juste entendu parler, et donc c'est ma formation continue. Alors, déclaration de conflit d'intérêts, je suis pédopsychiatre, et donc notre rapport à l'évidence based medicine est un peu particulier, parce que nous avons beaucoup de soins non industriels, mal évalués, etc., etc. Et sûrement de ce fait, ben nous avons très peu d'argent pour soigner nos patients, parce que ben plus c'est évalué, plus c'est reconnu, plus il y a de l'argent, et reste c'est le contraire, et donc ça conduit à des problèmes de soins. Donc ça c'est et forcément je suis impliqué dans ça. Et puis aussi donc en tant que science statistique, je consulte pour la plupart des firmes pharmaceutiques en statistique. Et donc dans la suite de ce que disait Hervé, on pourra échanger tout à l'heure. Et donc j'en parlerai dans ma présentation sur l'importance de la question de la firme pharmaceutique qui produit des preuves pour l'efficacité des traitements avec lesquels elle va gagner de l'argent, puisque c'est ça le cœur. Hein. C'est quand même c'est une vraie question. Alors, à propos de l'EBM, dans notre société en général, on vit un moment de déconstruction. C'est sociologique, même anthropologique. Et il y a une déconstruction de l'EBM en ce moment. Et l'EBM+ est un symptôme de ce mouvement de déconstruction. Alors, et c'est pas mal, voilà, parce que construire, c'est bien, mais à un moment donné, ça sédimente, on ne bouge plus. Et donc, ben, déconstruire, ça permet d'avoir des moments de créativité. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que on est un peu dans le chaos. Et alors, par exemple, avec d'un côté les collègues No Fake Med, vous êtes au courant, où ben, s'il n'y a pas de preuves, etc., c'est un crime. Et donc, tous ces médecins qui prescrivent des trucs bizarres, non évalués, ce sont des médecins. Au pire criminel, au mieux incompétent. Et puis de l'autre côté, ben il n'y a pas un mois en France sans qu'il n'y ait un médicament anticancéreux qui soit remboursé à des tarifs vertigineux, alors que les données fournies sont des données non randomisées, sans bras contrôle. Alors, faut savoir, on ne peut pas reprocher à des médecins qui prescrivent des traitements bizarres que c'est pas évalué, que c'est pas bien. Mais de notre côté, on le fait dans des maladies très graves et très sérieuses. Donc, ça, c'est le chaos. Hein? Ça, c'est le chaos. Et donc, du coup, ben, faut réfléchir à ça. Donc du coup, des gens remettent en question la notion de BM, puisque de fait, il y a un problème aujourd'hui. De fait, ça ne fonctionne pas. Et alors, des philosophes s'approprient la question, et j'ai été un peu déçu, parce qu'en général, les philosophes apportent de la sagesse dans les questions qui se posent. Et là, eh ben, c'est pas très bon. Et notamment. Il y a des réflexions philosophiques sur finalement evidence-based medicine. Alors déjà traduction, evidence, preuve, etc. Enfin bon, voilà. Mais peu importe, causalité, hein, puisque ça c'était un mot extrêmement fort dans la preuve. Hein, il faut quand même qu'il y ait une causalité, etc. Ces deux mots sont pourris. C'est non, pas tellement de sens, ou en tout cas pas le sens qu'on la prête. Hein. Une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Et donc, tout de suite, ça calme. Médecine fondée sur des faits prouvés, ben ouais, mais ça dépend à quoi vous croyez. Et les No Fake Med, ils croient à ce qu'ils veulent croire. Et du coup, et ils ont le droit, hein, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont peut-être pas le droit de dire que les autres ont tort. Vous voyez, hein, en tout cas, ça se discute. Ça se discute. Et puis la causalité, franchement, il y a 2500 ans de philosophes qui s'interrogent sur la notion de causalité, ils sont pas tous d'accord. Donc comment voulez-vous qu'on puisse dire qu'un jour les essais randomisés apportent une réponse causale à l'efficacité d'un médicament? Enfin, c'est pitoyable. Alors on verra pourquoi on a évoqué cette histoire. Donc, comme c'est le chaos et que même les philosophes visiblement, dans les articles, ont du mal à dire des choses comme ça. Par exemple, un papier que j'ai vu, ils disent, ah ben oui, mais alors on dit que la preuve est apportée par l'essai randomisé. En fait, c'est pas vrai, parce que quand on tire au sort, par l'effet du hasard, il peut y avoir des groupes différents. Donc, en fait, c'est pas une preuve. C'est quand même incroyable, alors que le tirage au sort est vraiment fait pour que la preuve statistique soit apportée, et elle tient compte du fait que les groupes peuvent être différents, c'est les fameux 5%. Les groupes peuvent être différents, mais ils ne peuvent pas l'être n'importe comment par tirage au sort, et on le verrouille avec ces 5% de risque que le résultat de l'essai soit positif parce que les groupes sont différents, parce qu'ils ont été tirés au sort. Donc, au contraire, le tirage au sort protège contre ça, et bien sûr avec un risque. Et ça, c'est inhérent à la médecine, il y a toujours des risques. Donc, comme c'est le chaos, prenons du recul et je vous propose de réfléchir autour de choses simples qui sont aussi suggérées par des philosophes, les faits, les normes, les valeurs. Et il y a un quiproquo aujourd'hui autour de ça. Donc, en médecine, il y a des faits qui ne sont pas réfutables. C'est-à-dire que, Monsieur Martin arrive... est hospitalisé pour une pneumopathie bactérienne avec une fièvre à 40 degrés, un cliché de thorax avec une opacité, etc., etc. Vous lui prescrivez un antibiotique, 15 jours après, il est apyrétique, il a un cliché de thorax, etc., etc. Il est guéri. Il était malade, il est guéri, ça a marché. Voilà, c'est un fait. Et on peut pas dire le contraire. Alors, à l'opposé, en médecine, il y a des valeurs. Voilà. Et les valeurs, c'est de la morale, c'est le bien, c'est le mal, c'est de la morale, il n'y a pas de vérité là-dedans. Et il faut l'accepter. Alors, quand on dit qu'un soin est un bon soin, c'est un jugement de valeur. Et on n'a pas tous... la même vision de ce qu'est un bon soin. Alors, bien sûr, historiquement, dans la médecine, il y avait les maladies aiguës, donc le purpura fulminans, l'infarctus du myocarde, enfin, tout ce qui construit le cœur du narcissisme du médecin. C'est « je sauve la vie ». Donc, la rupture totale dans la vie, dans l'existence du sujet qui devient malade, aigu, et que je vais sauver. Et là, un bon soin, c'est celui qui sauve. Et d'ailleurs, c'est ce que la société attend de nous. Quelqu'un qui a un purpura fulminans, quelqu'un qui a un infarctus du myocarde, on veut qu'il vive. En première approximation. Donc le bon soin, c'est ça, voilà. Et donc on a cru que c'était simple, que c'était toujours comme ça. Mais comme vous le savez, et vous y êtes confronté dans votre pratique, l'aigu, c'est plus le cœur du problème aujourd'hui de la médecine. C'est le chronique et même le handicap et même la prévention et tout ça et tout ça. Et là dedans, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon? C'est compliqué. Et d'ailleurs, on le retrouve même dans l'évidence de médecine avec les critères d'efficacité. Qu'est-ce qu'un bon critère d'efficacité? Je vous garantis que dans la plupart des cas, c'est très compliqué. Dans le cancer de la prostate, qu'est-ce qu'un bon critère d'efficacité? Hier, j'ai posé... Alors, on va dire la survie, mais comme vous le savez, la plupart, ils ne meurent pas de ça. La récurrence, mais la rémission, mais c'est pas facile à mesurer. Etc. Alors, et hier j'en discutais aussi avec des collègues psychiatres. Aucun m'a dit la sexualité. Alors que vraisemblablement, ça doit être un enjeu important. Alors, et dans l'asthme, même dans l'asthme, un truc simple. Qu'est-ce qu'un bon traitement anti-asthmatique? Le VEMS, les exacerbations? L'épargne cortisonique, la qualité de vie. Vous voyez, ça part dans des directions qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Donc, définir un bon soin, c'est compliqué. Et puis même, en fait, nous, vous voyez, tout ce que je viens de dire là, c'est très médico-centré, mais pour beaucoup de patients, un bon soin, c'est aussi un soin qui a du sens, qui fait sens par rapport à sa vie. Et c'est pour ça que vous avez plein de patients qui vont voir des soignants bizarres. Parce qu'ils y trouvent du sens. Or, la question d'un soin qui a du sens, je vous garantis que pendant les études de médecine, c'est l'électroencéphalogramme plat. Hein. Alors que, pourtant, bien entendu, les patients que vous avez en face de vous, quand ils vous voient, ils réalisent qu'ils vont mourir un jour et que quand on meurt, c'est compliqué pour un humain et qu'il y a des choses qui s'appellent la spiritualité, qui sont mises en branle, etc. et que c'est omniprésent, omniprésent. Et que du coup, un bon soin, ça devrait être un soin qui aborde ces questions. Et puis en plus, beaucoup des soins que vous proposez sont des médicaments. Et derrière les médicaments, il y a des industriels, il y a de l'argent. Et donc un bon soin, ça va être aussi un soin qui ne coûte pas trop cher. Donc vous voyez, la question des valeurs, elle est immense. Et qui a raison là-dedans? Qui peut prétendre savoir qu'est-ce qu'est un bon soin vraiment? C'est pas évident du tout. Alors, donc, d'un côté, il y en a les faits qui sont incontestables. C'est irréfutable. Il s'est passé quelque chose. À l'opposé, vous avez les valeurs où c'est la question de la vie et des humains et du bien et du mal. Et au milieu, vous avez les normes. Alors, les normes, c'est qu'en fait, comme les valeurs, c'est très compliqué, les humains, vous savez, ils mettent des règles. Il y a la loi, donc il y a le bien et le mal, mais il y a la loi. La loi, c'est pas le bien et le mal, c'est si vous faites ça, on vous condamne, sinon on vous condamne pas. Nous, on a une loi, c'est le BN. Voilà, c'est une norme qui fait que ça, on va dire que c'est évalué, et sinon, on va dire que ça n'est pas évalué. Donc, c'est une opérationnalisation à l'aide de méthodes, de l'évaluation pour dire que le soin est un bon soin. Mais on a escamoté, au moins provisoirement, la question des valeurs. Et la méthode apporte la preuve, mais comme je vous le disais, la norme apporte la preuve, mais en fait, la norme n'apporte qu'une partie de la preuve, puisque la norme, c'est une méthodologie reconnue, mais que pour qu'il y ait la preuve, il faut qu'il y ait une croyance. Et là, la croyance, chacun a les siennes. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions aussi avec le BM, et c'est pour ça qu'il y a des essais randomisés qui montre l'efficacité de granules 30 CH dans l'asthme, par exemple, sévère chronique, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ces essais sont des faux positifs pour de multiples raisons. Il y a même des méta-analyses de ça. Je n'y crois pas non plus. Sur des arguments qui m'appartiennent. Alors, revenons maintenant, une fois qu'on a posé le problème, revenons aux valeurs. Hein. D'où viennent nos valeurs? Quand on dit, puisque tous vous qui êtes ici, vous avez implicitement des valeurs, ce serait un bon soin ou pas. Et en fait, ces valeurs, elles viennent de votre histoire, de ce que vous avez appris, de vos maîtres, etc., de votre vie, voilà. Et alors, on peut quand même décomposer aussi historiquement ce qui s'est passé. Donc, il y a quand même... À l'origine de ces valeurs, vous savez, autrefois, on disait Aristote a dit, donc c'est vrai. Mais là, pendant longtemps, notre médecine, c'était ça. Et donc, Hervé parlait tout à l'heure du patron qui dit, on a toujours fait ça, et je suis le patron, et je dis que ça marche, et c'est comme ça, et puis voilà. Alors, bien sûr, il y a des effets collatéraux à ça, l'obscurantisme, le manque de progrès, etc. Alors, est-ce que forcément, Aristote a dit, c'est mal? Je suis sûr que dans votre pratique, il y a des collègues que vous estimez beaucoup, que vous considérez être comme de très bons médecins, et que quand vous savez pas, vous leur demandez comment tu ferais toi, et ils vous disent, et vous dites, je vais faire la même chose parce qu'il l'a dit. Enfin, tous les médecins font ça. Hein. C'est pas Aristote qui a dit, c'est le copain ou le professeur machin ou le docteur machin, quoi. Voilà. Et ça se voit même dans la méthodologie. Il y a des essais bayésiens. Où on fait un essai randomisé et on met une distribution a priori. Alors ça fait très mathématique, mais en fait c'est Aristote qu'on met dans la distribution a priori. C'est-à-dire on va demander à des experts ce qu'ils pensent du produit. Donc les essais bayésiens, on met un peu d'Aristote dans l'evidence-based medicine. Et donc j'ai des collègues qui ne supportent absolument pas ça, qui sont scandalisés parce que Aristote c'est le mal. Puis il y en a qui disent, après tout. Vous voyez, par exemple, pour évaluer une thérapie transculturelle pour s'occuper en pédopsychiatrie d'enfants migrants, on n'aura jamais d'argent pour faire des essais là-dedans. On a essayé, et vu l'argent que ça coûte, on n'aura jamais d'argent. Or, ça fait 20, 30 ans qu'on fait ça déjà, donc on sait que ça marche, on le voit. Et donc, mais sauf que quand on dit à l'HAS, on voit que ça marche. Hein. En plus, c'est quand même un peu logique. Si vous avez un migrant, la famille sait pas parler le français, qui viennent de cultures complètement différentes, et que vous leur proposez un médicament psychotrope, ben ils vont pas le prendre. Hein. C'est juste évident. Et donc, on fait venir toute la famille avec des traducteurs. On fait venir le chaman, etc. Et on discute. Et une fois qu'on s'est compris, ben ça marche mieux. Et ça fait deux séances. Voilà. Alors bien sûr, ça a beaucoup de monde, donc ça coûte un peu cher. Eh ben, on a fait un essai bayésien, donc on a pris d'abord des dires d'experts, et on fait un tout petit essai randomisé pour qu'il y ait le mot essai randomisé, et puis voilà. Et puis comme ça, la HAS, elle verra, ah, ils ont fait un effort, vous voyez, hein, on a fait un effort méthodologique pour que notre croyance soit portée et que ça fasse preuve. Et c'est bien, parce que c'est bien pour les patients, voilà, il faut faire des thérapies transculturelles, c'est évident. Mais comme on attend que ça soit prouvé, eh ben on fait le job comme on peut. Donc Aristote, oui, c'est le patron qui dit voilà. Alors il faut pas forcément que ça soit un patron, ça peut être une patronne, et puis ça peut même n'être ni un patron ni une patronne. C'est quelqu'un qui dit, il y a un savoir et voilà, il y a un savoir expérientiel, y compris chez les médecins, et que c'est respectable dans une certaine mesure. Alors bien sûr, la médecine a changé. Globalement, alors c'est progressivement qu'elle a changé, hein, progressivement, mais symboliquement, il y a un tournant au 19e siècle avec Claude Bernard, la physiopathologie, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui constitue notre médecine, puisque ben, Claude Bernard, il dit, il y a des malades, c'est compliqué. Quand il y a des maladies, c'est plus simple. Et donc, le malade a par définition une maladie. Et d'ailleurs, à tel point, vous savez que dans la plupart des pays, quelle est la définition de la médecine? C'est la discipline qui vise à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies. C'est très étonnant, hein? Alors, on a changé à l'Académie de médecine, vous pouvez regarder, ça a changé il y a quelques années. La médecine, c'est une discipline qui vise à protéger la vie et soulager la douleur. Ça se discute aussi, une question de valeur. Donc, en tout cas, la maladie structure la médecine. Et la maladie, c'est quoi? Eh bien, il y a, d'ailleurs, Bernard le dit explicitement, il y a quelque chose qui a causé la maladie. Et en gros, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a conduit à un dysfonctionnement d'un organe. Et le traitement vise à corriger ce dysfonctionnement de l'organe. Et à partir de ça, il y a eh bien, des pneumologues, des dermatologues, etc., etc. Il y a des spécialités d'organes, et vous, du coup, vous vous trouvez en porte-à-faux par rapport à ça, hein, par rapport à cette pensée bernardienne où il y a des causes et une physiopathologie, et il faut agir sur la cause. Et Claude Bernard écrit explicitement, et ça n'est jamais la statistique qui pourra expliquer la cause des maladies. La statistique ne servira à rien pour comprendre les maladies, ni pour expliquer l'efficacité des traitements. C'est marqué noir sur blanc dans l'introduction à la médecine expérimentale. Et comme il est français, eh ben, il y a des historiens qui considèrent que il a conduit au retard français dans l'acquisition de l'évidence-based medicine et des essais randomisés, de la statistique, etc., etc. Donc, du coup, quelle est la valeur bernardienne en lien avec l'efficacité d'un traitement? Eh bien, un bon traitement, c'est un traitement qui guérit la maladie. Voilà. Et d'une certaine façon, il a eu raison, notamment avec toutes les maladies bactériennes, qui étaient colossalement, qui le sont toujours, hein, c'est pour ça qu'il faut protéger nos antibiotiques, qui sont, imaginez la tuberculose, la syphilis, ce que ça faisait sans antibiotiques, et donc le fait qu'on réalise qu'il y a une cause qui est une bactérie, qu'on trouve des produits qui tuent la bactérie, c'est une révolution thérapeutique. C'est un monstrueux comme efficacité. Et c'est vraiment une pensée bernardienne qui conduit à ça. Donc ça, c'est très bien. Alors, il y a des effets collatéraux que j'ai vécu lors d'un essai d'un antibiotique en réanimation pour des pneumopathies, où le critère d'efficacité, ben c'est, enfin, c'était assez banal, hein, apyrexie, héboculture négative, etc., etc. Et donc, lors de la blind review, c'est-à-dire où on attribue le fait que les patients sont guéris, pas guéris, etc., que c'est le critère d'efficacité est passé ou pas, eh bien, il y avait un patient qui avait été guéri, mais qui était mort. Donc, c'était un échec. Eh ben, le réanimateur disait, mais non, il faut pas le considérer comme un échec, il faut le considérer comme un succès. Il est guéri, tout est guéri, les hémocultures sont négatives, le cliché de thorax est nettoyé, il est apyrétique. Alors, dis donc, mais quand même, il est mort. Ah oui, mais ça, en réa, on meurt, c'est comme ça. Il y a plein de raisons qui ont fait qu'il est mort, mais c'est pas à cause de sa pneumonie qu'il est mort. Et donc, du coup, il est guéri. Et c'était émotionnellement pour lui très fort. Il avait raison. C'est pas normal de dire qu'il a pas réussi à guérir son patient. Après, il est mort par pas de chance, quoi. Mais, alors, vous voyez, ça vous fait rire, mais pour le collègue, c'est fort. Hein. Et il y a, je suis sûr que ça résonne en vous, par moment. On considère qu'on a fait le job quand on a guéri. Alors que le patient, il se plaint. Ben, il se plaint, mais il est chiant. Nous, on a fait le job, vous voyez. Et il y a un conflit de valeurs, là. Il y a un conflit de valeurs. Alors, et là, je prends les travaux de d'Harry Marx, qui est un historien nord-américain qui a écrit un livre, je crois qu'il est pas traduit, The Progress of Experiments, taratata, Marx, M-A-R-K-S. Donc c'est sur l'histoire de la recherche clinique et de l'évaluation des thérapeutiques au XXe siècle, où il dit un peu ça, il dit, c'est, d'ailleurs je pompe sur ce qu'il a dit, hein, qu'il y a une pensée biologique sur la première moitié du XXe siècle, dans le domaine de la recherche scientifique pour évaluer les thérapeutiques, et à la deuxième partie du XXe siècle, il y a un courant qui dit, oui mais enfin, ça c'est bien, mais il y a plein de situations où quand on connaît la cause de la maladie, ça sert à rien pour soigner les gens. Donc un cancer du poumon, bon, il y a la cause, hein, les tabacs, les gènes, etc., etc. Une fois que vous savez ça, ça sert à rien pour soigner les gens. Donc du coup, cette pensée biologique et mécanistique, elle a été sympa, d'accord, mais il y a une étape à passer. Et donc là, il y a un nouveau courant scientifique qui apparaît, qui se sert de ce que Ronald Fisher faisait pour évaluer pas l'efficacité des médicaments, mais l'efficacité des semences de maïs ou de blé pour savoir celles qui produisaient le plus. Donc, ils faisaient des essais randomisés avec des statistiques. Et ben, ils disent, on va faire la même chose avec des patients. Et là, il y a une espèce de neutralité théorique. Vous voyez? On a l'impression, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de valeur. Je compare des groupes de patients. Et après, la statistique me dit, qu'est-ce qui est le mieux? Hein? Alors. Et puis ça a donné, donc comme Hervé l'a montré, l'evidence-based medicine, etc., etc. Ou d'ailleurs, c'est très important de dire que à l'origine, l'evidence-based medicine, il y avait aussi le choix du patient et l'expérience. Et Aristote, hein, Aristote, il est dans l'EPM, hein, l'expérience du clinicien, etc. Mais elle vient d'où? Elle vient aussi de tout ce qu'on lui a dit et du respect qu'il a pour les gens qui savent. Mais ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il y a eu en parallèle le new public management, c'est-à-dire il y a eu un changement de l'administration. Qui s'est durci. Avant l'administration, c'était ben on administre et après on rationalise, on administre sur la base d'une espèce d'EBM pour administrateur. Donc on ne va faire que des choses qui sont efficaces dans l'administration. Et l'efficacité pour un administrateur d'hôpital, c'est sûrement pas l'expérience du clinicien. Parce que si on dit que le médecin dans son expérience, c'est ce qui est bien ou mal, c'est insupportable pour un directeur d'hôpital ou un administrateur ou quelqu'un de la chasse. Vous voyez, c'est le chaos, quoi. Si le médecin a le droit de dire, je prescris ça parce que je trouve ça bien, parce que l'EBM me dit ça, mais moi je pense le contraire, et j'ai le droit parce qu'il y a les trois cercles. Donc, ben voilà, j'ai dit. Et vous voyez, pour quelqu'un qui contrôle l'assurance maladie, c'est très compliqué. Donc, du coup, ben, il y a deux cercles qui ont disparu. Il y en a un qui a complètement disparu, hein, l'expérience du clinicien. Et puis, il y en a un, en fait, il a disparu, mais on dit qu'il est toujours là, c'est-à-dire le désiderata du patient, mais c'est juste pour être politiquement correct. Parce qu'en fait, à la HAS, on s'en fout. Globalement. En tout cas, dans ma spécialité, c'est le cas. Puisque nos patients, c'est les enfants, je vous garantis qu'on les écoute pas trop pour savoir quels sont les soins qui sont efficaces ou pas. Donc New Public Management qui a fait que l'EBM s'est durci autour de l'essai randomisé. Et elle s'est dit aussi une deuxième fois, c'est que, en fait, les autorités de santé ont vu qu'il y avait là une façon très efficace d'évaluer les médicaments en vue d'obtention d'une AMM, qui est un cas très particulier d'évaluation des soins. C'est très particulier parce que le médicament est un produit industriel avec de l'argent derrière, etc. Et donc, c'est très différent d'une intervention chirurgicale, d'une kinésithérapie ou tout ça. Hein. Mais, parce que figurez-vous, jusqu'en 1970, la FDA n'évaluait pas l'efficacité des médicaments. Elle n'évaluait que les effets indésirables. L'efficacité d'un produit venait de son succès commercial. C'est marqué sur le site de la FDA. Ils ont fait une étude historique sur comment ils évaluent le médicament. Et ils disent, donc en 70, success, commercial success is not enough. Donc, il faut quand même faire de la science. Et ils disent, ben, il y a des gens qui font des essais randomisés. Ça doit bien marcher avec les médicaments. Et donc, du coup, vous voyez, l'essai randomisé est venu à ce moment-là comme quelque chose de très fort et qui produisait une valeur. Alors, c'est quoi implicitement cette valeur? Quand on dit qu'un soin est un bon soin par un essai randomisé, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire deux choses qui n'ont rien à voir. C'est que l'essai randomisé dit que le médicament est bon en moyenne. Or, vous ne soignez jamais des gens moyens. Et ça, je suis sûr que ça pose des tensions chez vous. De se dire, ah, je dois faire ça, mais Madame Martin, je la sens pas trop avec ça, hein, parce qu'elle va pas le prendre, etc. Mais est-ce que j'ai le droit de ne pas le faire? Parce qu'en moyenne, vous devriez le faire. Donc derrière, il y a une logique de santé publique. C'est-à-dire, pour la santé publique, le BM, c'est bien. Parce que la santé publique, c'est de la moyenne. Et c'est pour ça que les acteurs de santé publique sont très pronts EBM. Mais vous, qui êtes en permanence avec des sujets uniques, vous êtes en tension par rapport à ça. Et alors, aujourd'hui, on le voit, parce que comme on est dans une société postmoderne, le sujet unique prend une place extrêmement importante. Et donc, on a plein de questions qui se posent. Par exemple, faut-il traiter un hypertendu pareil qu'une hypertendue? Je vois les collègues qui hésitent. Et donc, on peut déployer cette question à l'infini. Et les essais randomisés sont pas du tout bons pour faire ça. Ça s'appelle des analyses en sous-groupe. Comme vous le savez, les analyses en sous-groupe, c'est pas très bon dans un essai randomisé. Hein, à cause d'une question de puissance statistique. Donc, pour l'essai randomisé, c'est bien pour la santé publique. Alors, le médecin se nourrit de santé publique, bien sûr. Et c'est bien de savoir qu'en moyenne, c'est mieux de faire ça que ça. Sauf que vous ne travaillez pas avec un sujet moyen. Vous avez un sujet particulier. Et il y a une vraie gymnastique qui est autant cognitive que épistémologique, hein, à transposer à un sujet unique ce qui a été démontré pour un sujet moyen. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, vous allez dire, alors, mais la valeur, quand même, au moins, on montre que le traitement, il est bon en moyenne. Ouais, mais bon, là aussi, ça veut dire quoi? Ben, quand même, globalement, un traitement, il est bon quand il fait plus de bien que de mal, déjà. Or, ben, le BM, c'est pas bon pour évaluer ce que le médicament fait de mal. Et c'est même pas que les médicaments. Les interventions chirurgicales, c'est pareil. La kiné, ça peut faire du mal, hein. Les psychothérapies, ça peut faire du mal. Et c'est très, très mal évalué par le BM. Et là aussi, pour une question de puissance statistique en général, et même d'investigateur, c'est que, vous le savez, un médecin a terriblement du mal à voir qu'il a fait du mal à son patient. Donc, on veut pas le voir, ça. Et donc, on voit pas les effets indésirables. On les rapporte jamais, parce qu'on veut pas le voir. Et donc, en fait, l'EBM, au sens de l'essai randomisé, ça évalue une facette du bon. Voilà, une facette du bon. Et c'est ça, il y a le critère principal d'efficacité sur lequel la puissance statistique est calculée. Et donc, on va dire, ben, au moins, sur une facette de ce qui pourrait être bon, mon traitement, il fait mieux que, et en général, c'est un placebo. Ce qui est très étrange aussi pour de la clinique. Et en fait, ça se comprend parce que, au moins, ça, c'est pas Aristote, si vous voulez. C'est qu'au moins, on a montré, dans un cadre très précis, qu'est à un endroit, on a tiré au sort des gens qui étaient comme ci et qui étaient pas comme ça, etc. Et là, on a montré que statistiquement, sur ce critère, eh ben, c'est mieux que ce truc qui est bizarre et qui est un placebo. Donc, je ne suis pas un charlatan. Donc, en face de mon patient, je peux dire, ben, le traitement que je vous prescris, eh ben, il y a eu une étude où on a montré que ça faisait vraiment quelque chose. Donc, je ne suis pas un charlatan. Voilà. Et en fait, quelque part, la pensée statistique, elle sert au moins autant à ça qu'à la santé publique. Et c'est pas négligeable hein, de dire qu'on n'est pas des charlots. Et la société attend ça de nous. Hein. La société attend de nous que nous ne soyons pas pareils que la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique. Alors, ben, donc, on a la valeur Aristote, on a la valeur Claude Bernard qui guérit les maladies. Enfin, le bon traitement, c'est quand on guérit les maladies. La valeur de l'EBM. Et puis, on a maintenant une nouvelle valeur avec value-based medicine. Hein, donc, il y a evidence-based medicine, il y a EBM+, et il y a value-based medicine, où en fait, la valeur, c'est la préférence du patient. Donc, un bon soin, c'est ce que préfère le patient. Et là, donc, on est en pleine postmodernité. C'est le patient qui sait qu'il a raison. Voilà, il est unique. Moi, je suis unique. Et dans mon unicité, je vous dis ce qui est bon pour moi. Je suis sûr que vous êtes confrontés à ça régulièrement. Alors là, le problème, c'est que, alors pourquoi pas? Bien sûr, c'est une valeur intéressante, la valeur patient. Mais on a l'impression que c'est une valeur transcendante, c'est-à-dire que, elle doit s'imposer à nous, hein. Eh ben, non. La valeur patient ne s'impose pas à nous parce que c'est une valeur comme les autres. Et pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, les patients ne savent pas forcément ce qui est bien pour eux. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une petite sidération. Mais si. Et ça, en tant que psychiatre, pour nous, c'est une évidence. Il y a des gens qui font tout pour se pourrir la vie. Il y a des patients qui font tout pour ne pas guérir. Et on a le droit de dire que c'est pas une bonne idée. Et la société attend de nous, ça aussi. Les familles, elles attendent de nous qu'on dise à monsieur machin qu'il est pas sérieux, qu'il prend pas son traitement et que s'il continue, ça va mal se passer. Voilà. C'est, vous le savez, ça. Donc, la valeur patient, elle est importante, mais elle n'est pas transcendante et elle n'est pas une vérité sur ce qui est le bien et sur ce qui est le mal. Et c'est d'autant plus vrai que le patient, il dit, c'est bien pour moi aujourd'hui, mais il sait pas du tout ce que le traitement va faire à moyen et à long terme. Et ça, on en a une petite idée, nous, parce que justement, on a appris des choses à l'école. Donc, il y a plein de valeurs. Alors, du coup, comment c'était pioté de tout ça? Alors, il y a l'EBM+, aujourd'hui, c'était le sujet d'aujourd'hui. C'est très simple, hein, l'EBM+, c'est un courant qui vise à rajouter à la valeur statistique la valeur biologique. Et donc et ça vient en grande partie des cancérologues qui disent, nous, on a des thérapies cellulaires, etc., et les anticorps monoclonaux, on sait que ça marche parce qu'on voit comment ça marche et on connaît la mutation de la tumeur et notre produit, il agit directement sur la mutation de la tumeur. Donc, ça marche. Et ça, c'est bernardien. Et donc, nous n'avons pas besoin de se randomiser, vous nous faites chier à devoir tirer au sort des trucs. Nous, je peux vous dire que ça marche. Et je vous garantis que en travaillant avec des labos, j'ai des collègues cancérologues qui disent ça. Et on est obligé de le dire, coco, mais je te crois pas. Je te crois pas parce que ça fait des années que les biologistes me racontent des trucs et régulièrement, c'est faux. Et voilà. Et c'est juste la réalité. La biologie, c'est fantastique. Ça marche très bien, mais parfois, ça marche pas. Et donc, on peut pas se permettre de donner les produits aux gens sans quand même les tester sur les gens. Donc, alors, c'est pour ça qu'il y a le BM+, c'est pas que la biologie, mais quand même, c'est dire que, le mécanisme d'action est un élément indispensable pour évaluer l'efficacité des produits, pour dire que c'est probant, pour dire que c'est prouvé. Mais vous voyez, c'est un conflit de valeurs qu'on essaie d'adoucir. Alors, est-ce que c'est grave? Pas forcément. Honnêtement, vous voyez, quand je dis que l'homéopathie, ça marche pas, la 30CH, c'est parce qu'il y a un argument mécanistique. Hein. S'il y a rien dans la pilule, c'est un placebo. Donc, c'est pareil qu'un placebo. Point barre. La démonstration, elle est vite faite. Hein. Alors, mais là, Là, si vous voulez, la croyance en la physique, c'est pas la même chose que la croyance en la biologie moléculaire. La physique, c'est solide, hein. Il y a le nombre d'Avogadro, 10 puissance moins 23, ben voilà, quand on est à 10 puissance moins 60, il y a rien. C'est, si vous voulez, si ça c'est faux, alors il y a plein de choses qui sont remises en question dans la société. Donc, mais il faut être honnête, c'est de BM+, quelque part. Hein. C'est de BM+. Donc, or, là aussi, on utilise plein de médicaments sur la base de leur mécanisme d'action. Hein. Vous donnez un diurétique dans un œdème aigu du poumon, ben, ça marche parce que c'est comme ça, ça marche. Hein. C'est logique et ça marche en pratique. Vous voyez, on va pas faire un essai randomisé là-dessus. Donc, mais il faut savoir juste à quel point. Et puis, si on ouvre la porte, ben, les psychanalystes, ils vont dire, ben, nous, ça marche, hein, parce qu'on a une théorie, on a des dizaines de milliers de pages avec des théories qui montrent que ça marche. Hein. Et ils n'ont pas complètement tort. Donc, il faut accepter que si on fait de l'EBM+, eh ben, on va ouvrir la porte. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que la biologie moléculaire qui explique l'efficacité des thérapies. Puisqu'il y a des thérapies, ben, je prends la psychanalyse. Ben, la psychanalyse, c'est pas les neurosciences qui expliquent comment ça marche. Hein. C'est compliqué, hein, parce que c'est un humain face à son inconscient, etc. La neuroscience, ils en sont loin encore aujourd'hui. Donc, les soignants, ils sont légitimes de dire, ben, c'est pas la biologie, donc c'est notre théorie à nous. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est plus mauvaise que la leur? Alors après, value-based medicine. Donc c'est un autre courant. Et donc, on vient d'en discuter. C'est intéressant, c'est sûr. C'est intéressant. Mais nous, on a eu des conflits. Vous voyez, on a eu des conflits de valeurs. Quand il y a eu de la value-based medicine sur les psychotropes à donner aux enfants. Parce que dans ces cas-là, qui dit la valeur? Les parents. Ben, qu'est-ce qui vous dit que c'est le parent qui sait le mieux pour son enfant? Alors, vu l'âge que vous avez des enfants en bas âge. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Je sais mieux que mon enfant, je sais ce qui est bon pour mon enfant. Ben oui, mais quand j'ai des parents qui m'amènent pour une prescription de Ritalin parce que leur enfant bouge trop, je soigne qui? Je soigne les parents ou je soigne l'enfant? Et ça, en tout cas, c'est l'enfant qui va prendre le médicament. Donc, et si je donne le médicament, il va être calmé, et ils vont être contents, donc la valeur, elle va augmenter. On va dire, ah ben c'est prouvé, il y a une bonne valeur. Ben oui, mais c'est pas pour lui, c'est pour le reste que c'est bien. Et donc, où est le bien là-dedans? Donc la value-based medicine, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il y a aucun problème, mais c'est pas la fin. Et puis alors, bien sûr, il y a l'IA et les big data. Il y a l'IA et les big data. Alors, d'un côté, c'est vrai que là, on peut faire. Ben là, est-ce qu'il faut se donner un antihypertenseur à une patiente ou à un patient de la même façon? Ben là, faut être honnête. L'analyse des données d'assurance maladie et tout ça, ça permet d'avoir apporté des réponses. Et il y en a tellement qu'on peut rentrer dans des sous-catégories. Ça va être une femme ou un homme, jeune, âgé, riche, pauvre, qui fait du sport, qui en fait pas, etc., 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 etc. On va avoir plein. On peut décomposer et avec donc les outils statistiques qui permettent d'approcher la complexité, pour pas dire l'IA, mais parce que c'est juste ça, c'est des outils statistiques qui permettent de comprendre des situations extrêmement multidimensionnelles avec des interactions et de la non-linéarité, ce qui est le domaine de la clinique, hein. C'est multidimensionnel, c'est complexe, c'est non-linéaire, c'est en interaction, et les statisticiens savent pas faire tellement ça. Et là, on a des outils où on voit que, qu'on va y arriver, donc oui, alors, c'est une nouvelle valeur incontestablement parce qu'on va dans la singularité, mais il y a des limites, c'est que tout n'est pas mesuré. Quand on dit big data, c'est pas total data. Et vous, par exemple, quand vous allez dans la salle d'attente et que vous serrez la main, si vous le refaites de nouveau après la pandémie, que vous serrez la main de vos patients, en serrant la main, vous avez des informations sur le patient qui n'est pas dans la base du Health Data Hub. Vous le voyez, vous voyez comment il marche, vous voyez s'il est accompagné par son époux ou son épouse, vous voyez comment ils sont ensemble. C'est des informations extrêmement fortes. Et le risque, c'est de dire, ah ben, s'il y a un dit avec ça, alors il faut le faire. Mais en fait, vous avez des informations qu'il n'y a pas et que ça va être difficile de les avoir, hein, de les avoir toutes. Voilà. Donc, on a déconstruit aujourd'hui et puis on a essayé de construire un petit peu. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a plein de façons d'avoir des données probantes, voilà. Et donc, ben oui, des méthodes qualitatives, pourquoi? Ben parce que des valeurs, ben c'est interroger des gens pour savoir s'ils trouvent que c'est bien ou mal. Et voilà, enfin c'est une méthodologie adaptée et qui peut entraîner une croyance, donc une preuve. Vous voyez? Donc au final, Ben soyons lucides, hein, et humbles par rapport à ce qu'est un bon soin. Et une fois que vous avez pensé votre bon soin, ben faut aller piocher dans les bons papiers qui ont les bonnes méthodes pour savoir si le soin est bon ou pas. Merci pour votre attention.
Je vous propose de passer aux questions.
Merci beaucoup. Hein. J'ai noté plein de choses. Je vais commencer doucement. Déjà, les 5% qui sont beaucoup remis en question. Eh bien, je voulais avoir un petit peu votre avis dessus sur le pays inférieur à 0,05. Eh bien, je voulais avoir votre avis éventuellement si vous sentez le vent tourner sur un pays inférieur à 0,05.
Alors, c'est une bonne question et en fait elle est mal comprise, mais alors même par certains de mes collègues statisticiens. Si vous voulez, il y a un quiproquo. Il s'est passé quelque chose au début du XXe siècle, donc en 1922, Ronald Fisher écrit un papier où il y a le petit p. Voilà, il dit, c'est un énorme papier, il fait 50 pages, écrit petit. C'est l'article qui constitue la biostatistique, qui a le maximum de vraisemblance, les statistiques suffisantes, et le petit p. Et plus tard, il va dire, bon, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Si c'est 10% ou 20%, c'est que c'est quand même pas terrible. Si c'est 1%, c'est quand même très probable. Ben, entre les deux, il y a quoi? Il y a 5%. Donc, on peut prendre ça, mais en fait, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, vous pouvez changer d'une étude à l'autre. Et puis, si c'est 6% ou 4%, c'est pareil, on s'en fiche. Il le dit très bien. Et d'ailleurs, il est extrêmement souple dans sa façon de voir l'inférence. Il dit, finalement, quand vous dites que quelque chose est significatif, c'est vous, en tant que scientifique, qui prenez la responsabilité de le dire. Et il y a un petit p qui l'étaye, mais il y a votre hypothèse, il y a le rationnel scientifique sous-jacent. Et puis, 10 ans après, il y a Neyman et Pearson qui écrivent un autre papier et qui disent, il y a une hypothèse nulle, il y a une hypothèse alternative. On prend un risque d'accepter l'une quand l'autre est fausse avec alpha et bêta. Et puis, si P est plus petit que 5%, alors je prends H1, sinon je prends H0. Et là, que P vaille 6 ou 4%, ça n'a rien à voir du tout. Et en fait, ce sont deux façons différentes de conceptualiser l'inférence statistique. Et le problème, c'est qu'on la mélange. Et que dans les essais randomisés, on prend Neyman et Pearson parce qu'il y a une AMM. C'est-à-dire, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on ne devrait pas avoir la même inférence pour un essai d'une intervention chirurgicale et pour un essai de phase 3 pour un médicament. Parce que l'intervention chirurgicale, ben, les chirurgiens, ils font comme ils veulent, en fait. Et donc, on compare, mais c'est souple. Alors qu'un médicament, ben, il a l'AMM ou il n'a pas l'AMM, il est remboursé ou il n'est pas remboursé. Donc, on est vraiment obligé d'avoir une règle binaire. Et donc, du coup, ben, si on est côté des médicaments, ben, le 5%, il est là, on ne va pas y toucher, quoi. C'est juste pas possible parce que si c'était 1%, ben, les essais ne sont pas faisables. Et si c'est 10%, c'est pas assez fiable, quoi. Et, en fait, c'est psychologique. C'est une espèce de psychologie cognitive. Le 5%, c'est humain. Mais par contre, il y a plein d'essais où faudrait pas le faire avec Neyman et Pearson, faudrait le faire avec Fisher, c'est-à-dire, on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Et à la limite, il faudrait même qu'il y ait que des intervalles de confiance. Voilà. Et que c'est le panorama global qui permet de savoir ce que le soin fait. Voilà. Mais c'est un débat, hein. C'est un débat. Et si c'est mal compris, c'est que Neyman et Pearson, mathématiquement, c'est extraordinairement beau. Donc, tous les enseignants de statistique enseignent ça. Et c'est très drôle parce que Fisher marque dans un de ses papiers, hein, il marque, c'est un drame, les gens qui enseignent les statistiques n'ont jamais fait d'expérience de leur vie et donc ils savent pas quoi ils racontent. Je sais pas si ça répond à la question. Bon.
Bien. Je vous propose de m'asseoir à côté du micro, mais merci encore pour cette présentation. Justement, vous avez une connaissance sur l'épistémologie de la biostatistique, etc. Et comme vous avez parlé rapidement des médecines très brièvement et thérapies complémentaires, je sais que vous avez travaillé aussi là-dessus, notamment pour le CERN, mais avec des travaux de, enfin, vous avez dirigé des travaux de thèse de sciences. Et justement, pour ces méthodologies-là, parce qu'il y a le mouvement FACMET, etc. Qu'est-ce que vous préconisez dans les méthodes du mixte actuellement? Parce que vous avez mixé du quali et du quanti, c'est-à-dire voir justement, alors on vient de parler des valeurs des vieux stats,
Oui.
on a d'autres valeurs en plus, mais comment pour essayer, nous, arriver à prendre une décision
Ouais.
singulière avec le patient, etc., qui prend le médecin alternatif complémentaire, et sachant qu'elles ne sont pas toutes comparables les unes avec les
Ouais.
autres, elles sont, bon, pas de mauvais types à l'hypnose, avec l'acupuncture, déjà on a trois trucs différents, je parle pas de les autres.
Ouais. Bon, alors, je vais taper à moitié en touche, mais on va proposer un groupe de travail à l'Académie de médecine sur quelle evidence-based médecine pour les soins complémentaires, pour les soins non conventionnels. Donc c'est vraiment la question, compte tenu du bazar qui se passe aujourd'hui, on est bien obligé de dire qu'est-ce qu'on attend pour ces soins-là. Alors, là, moi, je vais donner la réponse pour un collègue qui se pose la question concrètement avec ses patients. Moi, je dirais, d'abord, un, faut en parler. Voilà. Il faut que le dialogue soit ouvert avec le patient. Or, Et alors ça c'est le premier point, il faut que le patient le sache. Et je dirais, il faut que le patient sache que on est à même d'accepter son référentiel à lui. Que son référentiel peut être très bizarre. Voilà. Mais honnêtement, quand un médecin devient malade, son référentiel peut devenir bizarre, hein. J'ai plein d'exemples. C'est même plutôt la règle que l'exception, hein. Donc, il faut être humble par rapport à soi, accepter que le patient peut avoir un référentiel bizarre. Alors, à ce moment-là, ben, on en parle, hein. Qu'est-ce que vous allez chercher chez un naturopathe? Je prends l'exemple du naturopathe qui, pour moi, est le plus problématique. Parce que l'hypnose, en réalité, bon, il y a l'hypnothérapie, ça peut faire du bien, c'est pas sûr, mais bon, ça peut faire du mal. On a des exemples en ce moment, d'un psychanalyste, qui a abusé de ça. Mais la naturopathie, c'est potentiellement, enfin, ça porte en soi un discours dangereux par rapport à la médecine. Et donc, c'est d'autant plus dire, ben voilà, alors moi je comprends que, ben moi je vous propose des médicaments où c'est de la chimie, quoi, et je comprends que c'est pas cool. D'ailleurs, honnêtement, pour beaucoup de médecins, c'est pas cool de prendre des médicaments, hein. Donc je comprends que la nature, ça soit mieux quelque part. Donc je comprends, mais d'un autre côté, la nature, ça peut faire plein de problèmes aussi, hein. Il y a plein de traitements. Moi, avec mes patients, je dis par exemple, il y a un traitement antidépresseur qui est développé à partir d'une plante en Amérique du Sud. Ben oui, mais ça donne la maladie de Parkinson. Donc la fluoxétine, c'est sûrement pas bien, mais ça donne pas la maladie de Parkinson. Donc les plantes, c'est cool, mais en fait c'est un fantasme que c'est cool, quoi. Et donc en parlant, bon, et puis voilà. Et s'ils savent, s'ils ont, enfin, s'il y a une alliance thérapeutique, quoi, quand un naturopathe dit, l'écoutez pas, il vous donne des trucs qui sont mauvais, le patient, il a compris que c'était pas bien de dire ça, quoi. Voilà. Et après, les gens, ils font comme ils veulent, hein. Et donc, moi, je surveille l'emprise, quoi, parce que c'est ça qui est embêtant. Et puis, des messages dangereux sur ce qu'on fait.
D'accord, le positionnement de l'Académie de médecine.
Ben, alors, on a un rapport qui va sortir là, qui va être voté en séance la semaine prochaine sur la place de l'irrationalité en médecine. Voilà. Où le professeur Bustajon a collaboré, a été auditionné, etc. Et où on dit ça quand même, hein. D'ailleurs, on dit ça. D'ailleurs, on travaille sur, c'est là qu'on a décidé de travailler sur les faits, les normes et les valeurs, quoi. Et de dire que, ben, faut faire attention que nos patients ont des valeurs et que ces valeurs sont respectables et que nous n'avons pas forcément les mêmes et qu'il faut être à l'écoute des valeurs de nos patients. Et donc, on dit en conclusion qu'il faut laisser aux médecins du temps pour pouvoir avoir accès à ces valeurs et que c'est un élément essentiel. Et que ce que l'on dit, hein, c'est qu'on a été très inquiets, c'est qu'il y a même des collègues et des sociologues qui disent « maintenant, ça, c'est fini. En fait, il va y avoir une division du travail. C'est que le médecin, vous, vous allez être derrière votre ordinateur, vérifier que vos prescriptions sont compatibles avec la HAS. » Et puis que le patient va aller trouver quelqu'un d'autre à qui parler pour s'épancher de ses problèmes existentiels. Voilà. Division du travail. Et donc là, on est catégoriquement contre ça, en disant que c'est la fin de la médecine. Mais il y a un courant qui est pas négligeable et qui tend ah non, vous êtes des technos et vous coûtez cher, etc. Et vous êtes peu nombreux, vous êtes au courant. Et donc, donc votre temps est précieux. Donc c'est pas pour parler, c'est pour gérer les recours HAS. Et là, il faut être extrêmement vigilant avec ça. Parce que quelque part, on prend ce chemin.
Une dernière question peut-être? Et après, je vous propose une petite pause café avant de se libérer les neurones, avant de reprendre le sujet passionnant.
Bonjour, Jean Thibault, donc médecin généraliste également. Moi, je me pose la question dans la discussion qu'on a ce matin sur, en dehors là, de notre petit microcosme, comment on se positionne vis-à-vis des gens autour de nous, vis-à-vis des patients, et peut-être ce grande voix médiatique vis-à-vis de cette du public au sens large. Parce que d'un côté, on entend que peut-être on a accordé trop d'importance à ce que on a une croyance en tant que médecin scientifique qui est trop forte et qui nous a amené parfois à trop rentrer en conflit avec les valeurs des patients. Et en même temps, j'ai l'impression que cette difficulté vient aussi du fait que la culture scientifique au sens large dans la société, elle est très, très faible et on peut avoir envie de, au contraire, pousser ça et y compris dans d'autres domaines que la médecine où on entend parfois des choses sur ben on va faire ça il y a plein de domaines hyper importants de la société où on évalue très peu que ben on fait ça et est-ce que ça marche ou pas quoi et donc j'ai du mal moi à vous dire est-ce qu'il faut qu'on aille plus vers quelque chose qui pourrait être perçu comme une mise à niveau de choses qui ne sont pas exactement égal, en tout cas, du même niveau, ou est-ce qu'il faut pousser sur, oui, mais quand même, cette culture scientifique, elle est importante.
Oui.
Pour envoyer des choses.
Oui, oui, oui. Alors, dans le rapport, on en parle aussi. Alors, tout le monde le dit, hein, il faut, c'est l'école, hein, et en particulier l'école primaire, il faut, une culture scientifique à l'école, et une critique, mais le fait qu'il y ait, par exemple, la lecture critique d'articles, dans les facs de médecine qui n'existaient pas avant, ça a fait progresser les choses, hein. Ça va mieux, hein. Donc, avant, c'était pire, hein. Avant, c'était pire. Alors, néanmoins, la société, elle a changé. Donc, c'est là que ça devient plus compliqué. Moi, je pense que j'ai deux raisons pour ça. Il faut que nous fassions attention à ne pas être scientiste. Parce que la tentation, c'est de dire « Oui, mais moi, je sais, moi, j'ai raison, parce que je connais les articles. » Et je sais que c'est vrai, il y en a marre de vos conneries que vous racontez sans arrêt, parce que c'est vrai que c'est des conneries, bien sûr. Les vaccins en Covid, c'est pas des puces 5G qu'on injecte, hein. c'est pas ça. Voilà. On peut pas dire que c'est il y a un doute, non, il y a pas de doute. C'est pas ça. Donc c'est énervant quoi, de savoir qu'on a raison et là, parfois on a envie de dire non, j'ai raison, sauf que faut faire très gaffe, c'est que si on dit non, moi je sais, eh ben on risque à un moment donné de dire je sais alors qu'on sait pas, et alors là tout s'effondre. Tout s'effondre parce que ils vont piocher le moment où on a dit qu'on savait alors qu'on savait pas, et on est complètement décrédibilisé pour tout ce qu'on dit. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Donc il faut vraiment pas être scientiste, il faut être humble. C'est un investissement à long terme. Tu vois, voilà. Mais je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend des situations. Alors, en moyenne, est-ce que le paracétamol est un antalgique efficace? Ah ben, ça dépend. Ça dépend. Dans la migraine, sûrement. Dans le mal de dos, sûrement pas. Et puis, ça dépend des patients. Il y a des patients qui peuvent même avoir, avec un mal au dos, aller mieux avec du paracétamol. Est-ce que c'est le placebo? Ben, on n'en sait rien sur un patient. Peut-être qu'il a un mécanisme de douleur particulier chez qui ça marche. Vous voyez? On ne sait pas. Mais je sais quand même que le paracétamol, c'est compliqué. Et que bien sûr, si vous prenez un morphinique, ça va aller mieux. Mais voilà, vous voyez, on sait des choses, mais dire ce qu'on ne sait pas. Et alors, le deuxième argument, c'est que c'est la meilleure façon de lutter contre les paranos. C'est d'être souple, de dire, ah, vous avez peut-être raison, c'est vrai, c'est un point de vue que je trouve étrange, mais après tout, on peut en discuter, quels sont vos arguments, etc. Et voilà mes arguments, voilà.